Troisième nuit de violence à Forêt et à Saint-Gilles, des violences hélas trop prévisibles qui posent une fois de plus le problème des rapports entre Belges et immigrés. Au Zaïre, où les services publics ne fonctionnent plus, un reportage de Frédéric François sur la mise en place de toute une série de services parallèles. Les magistrats aussi sont mécontents de leurs conditions de travail, juges et procureurs ont fait la grève aujourd'hui. Bonsoir à tous. Les alentours du parvis Saint-Antoine à Forêt ont été une nouvelle fois la nuit dernière le théâtre d'échauffouré entre manifestants, immigrés pour la plupart, et forces de l'ordre. Mais cette fois, gendarmes et policiers avaient prévu le coup et organisé une savante manœuvre d'encerclement. Le récit de cette nuit agitée avec Alain Carlier.
Tout démarre à la tombée de la nuit. 200 à 300 jeunes occupent le parvis Saint-Antoine et lancent une vingtaine de cocktails Molotov en direction des gendarmes.
Dispersez-vous, dispersez-vous.
Selon les policiers, il existait un véritable plan de guerre élaboré par certains manifestants pour incendier et piller le Delhaize du quartier, mais aussi pour ratisser les magasins de luxe de l'avenue Louise. Les forces de l'ordre ont entrepris de boucler le quartier afin de prendre le noyau dur en tenaille.
On va les calmer, les gendarmes, s'il vous plaît, on va les calmer. Hein.
Allez, on y va, on gère, on refoule tout le monde.
La manœuvre d'encerclement se poursuit, mais cette fois, ce sera dans le calme. Le déploiement de forces de la gendarmerie impressionne et dissuade toute nouvelle action de rébellion. La gendarmerie semble opérer avec beaucoup de sang-froid. La présence de nombreux journalistes n'y est peut-être pas pour rien. Les jeunes se sont laissés arrêter facilement. Quelques petits groupes tentaient d'ultimes provocations en lançant des pavés et en se réfugiant aussitôt dans les habitations. Au total, 204 manifestants ont été arrêtés. Ce soir, seuls 3 suspects marocains, résidant à Saint-Gilles-et-Forêt, sont toujours interrogés par la gendarmerie. Ils circulaient dans le quartier, à bord d'une voiture volée, et transportaient plusieurs cocktails Molotov. Un jeune enfant a été blessé par le jet d'eau d'une autopompe qui avait fait éclater la fenêtre de sa maison. Il est déjà rentré chez lui cette nuit. 6 autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles plusieurs journalistes.
Tous les événements de ce week-end sont issus de problèmes politiques, économiques et sociaux. Il appartient maintenant aux autorités de prendre leurs responsabilités. Ceci n'est pas l'analyse d'un journaliste, mais celle du parquet de Bruxelles. Le contrôle policier de vendredi soir, qui a mis le feu aux poudres, n'aurait été, dit-on aussi dans les milieux policiers, qu'un alibi pour déclencher des émeutes. Il y a eu des provocateurs, et ce seraient eux notamment qui auraient distribué les fameux cocktails Molotov. En tout cas, pour éviter que ces violences ne continuent, le ministre-président de la région bruxelloise, Charles Piquet, réunissait ce matin les bourgmestres, la police et la gendarmerie. Christophe de Borsu.
Forêt, c'est la faute aux flics et à leurs provocations. Ce tract diffusé dans un athénée bruxellois l'affirme, et vous l'entendrez, c'est la version de beaucoup de jeunes maghrébins, mais pas celle de l'ensemble des policiers bruxellois.
La provocation n'existe pas. On entend parler de délits de sale gueule, par exemple. Je m'inscris en faux contre de telles affirmations. Si nous faisons des contrôles d'identité ici sur le territoire de Bruxelles, c'est sur base de signalements donnés par les victimes. On est très vite critiqué parce que, effectivement, nous sommes là 24 heures sur 24 pour essayer de régler des problèmes sociologiques, finalement.
Les policiers ne remettent donc pas en question leur façon de faire. Le Conseil régional de sécurité non plus. Ce conseil regroupe la région bruxelloise, les bourgmestres et les principaux services d'ordre de la capitale. Réponse aux incidents du week-end, plus de policiers.
Mais surtout un recrutement facilité par, une simplification des conditions de recrutement.
Et alors, dans un deuxième temps, les communes vont maintenant amener du renfort sur le terrain à Forêt.
Oui, parce que les hommes de Forêt et aussi de Saint-Gilles sont fatigués et il faut absolument avoir des hommes qui ne perdent pas leur sang-froid dans les conditions actuelles. Mais l'ensemble des bourgmestres, voilà, tous les bourgmestres ont marqué leur accord et je crois que c'est très bien.
Une seule mesure autre que policière, les communes engageront quelques travailleurs sociaux supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, ici à Forêt ou ailleurs dans la capitale, s'il y a de nouveaux incidents, ils seront réprimés.
En aucun cas, la police de Bruxelles n'abandonnera le terrain à des voyous de rue.
Le ministre de l'Intérieur, Louis Tobac, devait aussi avoir son mot à dire quand ce ne serait que parce qu'il est le patron de la gendarmerie. Son interprétation est la même que celle des autorités bruxelloises. Il donnait en fin d'après-midi une conférence de presse pour l'expliquer et Nicole Brichet y assistait.
Il n'y a pas d'excuse à ce genre d'incident, vient de déclarer le ministre de l'Intérieur qui annonce une série de mesures pratiques. Pas question de changer quoi que ce soit aux rondes de gendarmerie. Quant aux polices communales, elles pourront recruter désormais des auxiliaires de police non statutaires, une manière de permettre le recrutement d'auxiliaires maghrébins, ce qui pourrait, dans certains cas, s'avérer très utile. Louis Toubac soulève deux points troublants. Les incidents interviennent dans les communes qui ont manifesté le plus de collaboration au point de vue de l'intégration des immigrés, et les arrestations révèlent la présence d'éléments étrangers au quartier.
Il semble déjà évident maintenant qu'il y avait là des gens qui n'avaient rien à voir à Bruxelles, qui n'appartiennent certainement pas à la communauté maghrébine bruxelloise, ni forestoise, ni saint-gilloise, qui sont venus de Flandre, qui sont venus de Wallonie, qui sont attirés par la perspective de pouvoir participer dans une rixe.
Des Belges également ?
Des Belges, évidemment.
Nous avons en Belgique depuis des mois un commissaire royal à la politique des immigrés. C'est Madame Paula Dont. Ce qui vient de se produire n'a pas dû la surprendre beaucoup. Elle a rappelé tout à l'heure combien il était nécessaire, si on voulait assurer une cohabitation harmonieuse entre Belges et immigrés, de rapprocher la police des habitants. La police qui est souvent mise en accusation quand on interroge les habitants de ces véritables ghettos que sont certains quartiers de Bruxelles. Pierre Istas en a recueilli quelques échos cet après-midi, mais vous allez l'entendre, il ne faut pas simplifier. La police n'est pas jugée seule responsable.
Institut Jacques Vrance à Saint-Gilles. Ici, des jeunes de toutes les nationalités suivent des cours de formation professionnelle. Pour eux, les violences de ces derniers jours s'expliquent par le comportement habituel de la police.
Surtout les gendarmes et tout ça. C'est eux qui sont, je ne dirais pas plus sévères, parce que, je sais pas... On ne peut pas discuter avec un copain dans un coin de rue, on ne peut pas se promener tranquillement sans qu'il nous arrête deux, trois fois pour le contrôle. Vous faites 500 mètres, on vous contrôle deux fois. Tant qu'on ne résout pas ce genre de problème, qu'on ne trouve pas quelque chose pour occuper les jeunes, ça sera toujours comme ça.
À moins qu'on se teint les cheveux.
Comment ?
À moins qu'on se teint les cheveux.
Un blond, oui. Ça suffira pour être, en étant blond,
peut-être,
ça ira bien.
Je ne sais pas, il y aura moins de contrôle, c'est déjà ça.
Quartier Saint-Antoine, là où se sont déroulés les événements des nuits dernières, c'est le même constat. Les immigrés se plaignent beaucoup du comportement des forces de l'ordre.
Un contrôle au parc de Forêt. J'étais dans le bac à sable, j'ai eu un contrôle. On m'a traîné dans le bac à sable. On m'a dit on va te faire manger le sable du désert. Ils me l'ont fait manger, ils étaient assis sur moi.
Mais hors les brimades policières, il y a aussi cette ancienne piscine municipale reconvertie en boîte de nuit, les bains Baden, réservés uniquement à une clientèle de luxe. Une véritable provocation dans ce quartier d'immigrés pauvres.
Quand je sors de chez moi à 4h du matin pour aller travailler, parce que je travaille à la CIP, je trouve la voiture, une Ferrari garée juste devant ma porte, le type dedans, sous à mort. Quand je lui pose la question, monsieur, de quel droit vous vous mettez ici, il me dit, monsieur, ici je suis chez moi. Si vous n'êtes pas content, vous retournez dans votre pays vers la loi. Alors il ouvre sa braguette, et il commence à pisser devant ma porte. Est-ce que vous êtes chez vous dans votre pays belge, vous allez voir quelqu'un qui fait ça devant vous, est-ce que vous allez rester tranquille? Quelle est la solution, franchement?
Une atmosphère aussi lourde dans la capitale, des événements aussi graves, ne pouvait évidemment pas manquer de susciter les réactions des hommes politiques. D'autant, il faut le rappeler, que tous sont déjà en ligne de mire les futures élections législatives. Alors Jacqueline Liesse, on a beaucoup parlé d'immigration, de Saint-Gilles et de Forêt dans les bureaux des partis ce matin.
Beaucoup de réactions en effet, Jacques. Dans la majorité, le Parti socialiste lance un appel au calme, à l'ordre, mais aussi à la justice sociale. Il faut combattre, dit-il, la dégradation sociale de certains quartiers. Le PSC insiste aussi sur le maintien de l'ordre public et met l'accent, lui, sur la présence d'agitateurs professionnels contre lesquels il demande des sanctions. Côté opposition, ce n'est pas une surprise. Le ton est nettement plus virulent. Pour Écolo, aucune politique de prévention n'a été mise sur pied pour cette population marginalisée, mais peu rentable sur le plan électoral. Le FDF s'en prend à ce qu'il appelle l'incohérence du gouvernement Martens-Moureau, qui dit vouloir intégrer, mais ne s'en donne pas les moyens. Enfin, le PRL parle de situation explosive, d'insécurité grandissante parmi la population. Pour les libéraux, il faut mettre un terme définitif à l'immigration par un renforcement des contrôles. Enfin, Jacques, il y a tout de même un point sur lequel tous les partis se rejoignent, l'impréparation et le manque de moyens des forces de police, et donc l'urgence d'une revalorisation qui passe par le recrutement, la formation, entre autres, ce qui implique aussi des moyens financiers.
Merci Jacqueline. Pour en finir avec la politique belge, un complément d'information à propos de ces négociations difficiles dans les services publics. Le ministre de la fonction publique, Raymond Langendries, doit tout au long de cette semaine revoir des représentants des exécutifs et des syndicats de fonctionnaires pour essayer de renouer le fil des discussions interrompues ce week-end. C'est pour éviter de s'engager dans le maquis des négociations secteur par secteur que Raymond Langendries entreprend ce travail de déminage qui ne sera certainement pas facile. Pour ouvrir notre chapitre international maintenant, un deuxième reportage ramené du Zaïre par Frédéric François et son équipe. Étonnant, surprenant même, tout autant que celui d'hier. On l'a beaucoup dit ces derniers temps, dans le Zaïre d'aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, en tout cas, plus rien de ce qui devrait être organisé par les pouvoirs publics. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus au Zaïre de poste, de téléphone ou de transport en commun, simplement, c'est le secteur privé qui a pris le relais.
Kinshasa, hôtel intercontinental, une jolie carte postale. Mais de la carte postale à la réalité, il y a loin. Dans la galerie commerçante de l'hôtel, on vend les téléphones les plus sophistiqués, mais pour quoi faire aussi? La semaine dernière, seules les lignes intérieures de l'hôtel fonctionnaient. Réussir à atteindre l'étranger tient du miracle, et même en ville, 3 jours sur 5, le téléphone répond aux abonnés absents. Découverte au hasard d'une visite dans un bureau du centre. Mais on répare, enfin. On tente de réparer. Car avouez, une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes. Le service public est mort, affirme M. Miko dans une interview au très sérieux magazine Finance. Au départ, M. Miko, Zaïrois, patron de Télécel à 60%, vendait du matériel informatique.
Le développement de l'informatique sans les télécommunications n'était pas possible. C'est ainsi qu'il a envisagé, dans le cadre de l'expansion des activités de l'informatique, d'essayer d'avoir un réseau privé fiable, étant donné que le réseau public présentait un certain nombre de difficultés. Mais dans les essais, il s'est avéré que ce réseau pouvait servir un peu plus de monde que prévu. C'est ainsi que petit à petit est née l'idée de créer une société de télécommunications privée.
Aujourd'hui, le téléphone cellulaire, standard américain, est devenu un outil indispensable, même au comble, pour les ministres et les PDG des secteurs publics. Télécel a son bottin, son réseau intérieur, relié en outre à celui de la régie, à condition que la régie réponde, évidemment. La société a ses propres centrales ultra-modernes, installées au sommet de 3 buildings de Kinshasa. Et demain, grâce à Télécel, la capitale sera reliée par satellite à Lubumbashi et Goma, puis à tous les grands centres du Zaïre. Le privé supplée aussi aux carences de la Poste. Monsieur Ya Moutoualé vient de créer une agence de distribution du courrier. Il couvre Kinshasa, le Zaïre et l'étranger. Non sans difficulté d'ailleurs, car un autre parastatal, Air Zaïre, ne cesse d'augmenter ses prix.
Donc dès demain, 60% de transport aérien. Bon, ça va commencer lundi 6. Sur toute destination, bien Europe. C'est les tarifs intérieurs. Mais les gens ne vont plus se promener.
Heureusement, il existe déjà plusieurs compagnies aériennes privées. Et là, on ne réquisitionne pas les avions réguliers pour transporter l'équipe nationale de football. Autre gros point noir des services publics, les transports, les routes, la voirie. Transport public nettement insuffisant et délabré. La semaine dernière, on avait recouvert les toits des bus de savon noir pour éviter ceci. Les transports privés sont légions de vieilles camionnettes dont les compteurs sont fatigués de compter.
Monsieur, qui vous a permis de filmer comme ça? Non. Pas chez nous.
À Kin, il faut le rappeler, c'est le problème des transports en commun qui est à la base de tous les incidents des derniers mois, surtout avec les étudiants qui, exacerbés, lapident régulièrement les véhicules, ce qui n'arrange rien. Quant aux routes, il n'est quasiment plus possible aujourd'hui de circuler à l'intérieur du pays. Pour l'économie, c'est un désastre. Exemple, ce négociant du Kivu qui vit, qui devait vivre de l'exportation de son café.
Nous avons de Beni jusqu'à la frontière de Uganda, Bondwe, Kassindi-Bondwe, 75 km, dont les camions ils font parfois jusqu'à 10 jours dans les trous.
La presse s'inquiète, tantôt avec humour, tantôt avec sérieux, chiffres à l'appui. Il faudrait 3 milliards de dollars, 100 milliards de nos francs pour parer au plus pressé. Enfin, la voirie. Ici, il y avait une route. Les pluies de mai l'ont emportée. Le défrichage sauvage, les collecteurs bouchés ou inachevés, tout cela provoque une lente érosion, puis des glissements de terrain. Tant dans les quartiers pauvres comme ici à l'Anjili, où la semaine dernière de nombreux enfants sont morts noyés, que dans les quartiers de Villa, à Binza par exemple. On aurait pu réparer l'an dernier ou l'année d'avant, mais comme un Zaïrois le disait un jour à un ami suisse, vous avez des montres, soit, nous avons le temps. Résultat, des dizaines de maisons englouties et d'autres qui le seront dans les prochains jours, dont celle de l'ancien Premier ministre Kengo, ce qui fait dire aux Zaïrois, jamais en panne d'humour, que le régime est vraiment au bord du gouffre.
Au Proche-Orient, toujours les improbables espoirs de paix entre Israël, les Palestiniens et les États arabes. Malgré des différences de vocabulaire, les États-Unis et l'Union soviétique semblent tous deux décidés à faire avancer les choses. Et comme disait tout à l'heure le secrétaire d'État américain James Baker, il y a plus de signes positifs que de signes négatifs. Mais ni Américains ni Soviétiques n'ont réussi jusqu'ici à obtenir d'Israël et de la Syrie la moindre concession. Nicole Couvreur.
Entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'heure est à la concordance. Déclaration de James Baker à l'issue de ses entretiens avec Alexandre Besmertnik, il y a nettement plus de points d'accord que de désaccord entre les parties concernées sur la convocation d'une conférence de paix au Proche-Orient. Accord entre les deux coparins d'une possible conférence de paix, c'est probable. Accord entre les autres parties concernées, on peut en douter. Entre les deux ennemis irréductibles, la Syrie et Israël, les divergences restent de taille. Une pierre d'achoppement parmi d'autres, la question d'une éventuelle implication des Nations Unies et le type de conférence. La Syrie insiste pour que les Nations Unies jouent un rôle significatif et important dans une conférence régionale au Proche-Orient et que cette conférence se réunisse périodiquement. Ces deux points sont catégoriquement rejetés par Israël. Selon le Washington Post, James Baker ne se fait guère d'illusions. S'il s'en tient à son agenda de la semaine, après l'Égypte, la Jordanie et Israël, c'est parce qu'il estimerait déshonorant de se décommander et non pas parce qu'il conserve de l'espoir.
Un peu plus à l'est, un autre abcès au Proche-Orient, la situation des Kurdes irakiens. La plupart refusent toujours de rentrer chez eux sans garantie de sécurité dans l'immédiat et sans garantie politique à long terme. Et pourtant, on discute à Bagdad et aussi sur le terrain où les troupes coalisées acheminent maintenant des secours jusqu'à la ville de Dahouk, la capitale provinciale au nord de l'Irak. Toute une série de vedettes internationales du rock et des variétés ont donné hier un grand concert de bienfaisance à Londres pour venir en aide à ces réfugiés kurdes. 10 000 personnes à l'intérieur du stade de Wembley, 50 millions de spectateurs grâce à la télévision. On espérait récolter un bon milliard de francs belges. Mais certains artistes comme Sting, Peter Gabriel ou Sinéad O'Connor ont demandé qu'une partie de cet argent aille aussi au Bangladesh. Et nous allons reparler dans un instant de la catastrophe climatique qui touche le Bangladesh. Mais avant cela, en images, quelques télégrammes qui témoignent d'autres violences bien humaines, celles-là. Roger Clermont.
Nouvelle manifestation en Corée à l'occasion des funérailles de l'étudiant tué fin avril par des policiers. Ayant forcé l'entrée du siège du parti gouvernemental, les étudiants n'ont été expulsés sans ménagement. Une nouvelle semaine de violence s'annonce à Séoul, le président Roh refusant toujours de changer de gouvernement. 5 membres au moins de l'armée rebelle arménienne ont été tués lorsque les forces soviétiques ont attaqué un minibus près du village de Voskepar en Arménie. Le président arménien Petrosyan a déclaré que les Arméniens ne se laisseront pas intimider et qu'ils poursuivront le processus d'indépendance. Un charnier en Irak, région de Bassora. Nous sommes à moins d'un kilomètre de la frontière iranienne et, à en croire Bagdad, il s'agit d'une centaine d'Irakiens exécutés sommairement par des Iraniens qui se seraient infiltrés dans la région. Mais l'absence de preuves et l'état de décomposition des corps ne permet pas d'authentifier cette version irakienne.
Le Bangladesh maintenant. Les inondations de ce week-end ont fait une cinquantaine de morts supplémentaires et comme si cela ne suffisait pas encore, la météo annonce un nouveau cyclone qui pourrait frapper le pays dans un ou deux jours. Mais l'arrivée de toute une division de Marines américains, de leurs hélicoptères et de leurs engins amphibies pourrait contribuer en attendant à l'amélioration du sort des survivants du cyclone de la semaine dernière qui a fait déjà officiellement 140 000 morts. Les États-Unis ont dépêché sur place des troupes qui rentraient du Golfe Persique. Ces Marines n'avaient pas participé à la guerre dans le Golfe. Les voilà cette fois embarqués pour une mission au moins aussi utile et tout à fait pacifique. Le pape Jean-Paul II, lui, est parti en guerre contre les athées. Au Portugal, où il est en pèlerinage auprès de la Vierge de Fatima, le pape a répété aussi sa condamnation de l'avortement et de la contraception. Mais il venait remercier surtout la Vierge de Fatima de lui avoir sauvé la vie, il y a 10 ans déjà, lors de l'attentat de la place Saint-Pierre à Rome. Roger Clermont.
Fatima, le point fort de la visite pastorale de 4 jours entreprise par le pape au Portugal. Une visite qui coïncide avec le 74e anniversaire du jour où, selon la croyance catholique, la Vierge est apparue à 3 petits bergers. Qui coïncide aussi avec le 10e anniversaire de l'attentat qui a failli coûter la vie à Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, ce 13 mai 1981. Profondément convaincu que c'est la Vierge de Fatima qui lui a sauvé la vie en détournant la balle tirée contre lui, le pape a prononcé un acte d'offrande et de consécration à l'occasion d'une spectaculaire veillée nocturne et en présence d'un 500 000 de fidèles. Quant à la balle tirée par le Turc Ali Aksa, elle est aujourd'hui sertie, telle une relique, dans la couronne en pierre précieuse de la Vierge de Fatima. Le souverain pontife a encore eu un entretien en tête-à-tête avec sœur Lucia, seule survivante des 3 petits bergers, et à l'issue de cette 4e et dernière journée de sa visite au Portugal, Jean-Paul II a repris ce soir le chemin de Rome.
En Afrique du Sud, l'épilogue tout provisoire d'un procès qui agite l'opinion publique depuis des mois. Winnie Mandela, l'épouse du leader de l'ANC, était accusée d'avoir laissé quelques-uns de ses gardes du corps enlever et puis battre comme plâtre quelques militants d'une autre organisation anti-apartheid. Le tribunal de Johannesburg a décidé. Aujourd'hui, Madame Mandela a été reconnue coupable de complicité dans cette affaire. Elle aurait délibérément tenté de masquer les liens qui l'unissaient à ses gardes du corps, mais les juges ont admis par contre qu'elle n'était pas directement responsable des violences parce qu'elle se trouvait à des centaines de kilomètres de son domicile le jour des faits. Pour clore maintenant ce chapitre international, une information économique qui va surprendre. Rolls-Royce, en tout cas sa division aéronautique, a trouvé un nouveau système pour faire des économies sur les salaires et pour sortir son bilan du rouge. Tous les salariés de la société, ils sont 34 000, ont été simplement licenciés. Ils pourront se représenter dans quelques semaines pour être réembauchés, mais avec un nouveau contrat dans lequel ils devront accepter que leur salaire soit gelé. Une procédure purement technique, dit-on chez Rolls-Royce, les syndicats consultent leurs avocats. Pour revenir en Belgique, une autre information, d'ordre économique elle aussi, l'administrateur délégué des mines du Limbourg, Tael Geyselings, a présenté sa démission aujourd'hui. Depuis 1985, il s'occupait du plan de fermeture, mais aussi de reconversion des charbonnages du Limbourg, pour lesquels on a dépensé déjà quelques dizaines de milliards d'argent flamand, mais dont les manifestations sur le terrain se font un peu attendre. Une société qui se restructure, un dirigeant d'entreprise qui démissionne, c'est encore assez fréquent. Des juges et des procureurs du roi qui manifestent pour de meilleures conditions de travail, c'est beaucoup plus rare. Et c'est pourtant ce qui est arrivé aujourd'hui. Tous ont cessé le travail et se sont réunis au siège des cours d'appel. Jean-Paul Procureur était au palais de justice de Mons.
Des magistrats qui laissent leur toge au vestiaire et qui tiennent une assemblée générale pour entendre un message syndical, c'est le genre de manifestation qu'on ne voit pas tous les jours. Il faut dire que les difficultés judiciaires ont atteint un niveau critique. À la cour d'appel de Mons, par exemple, certaines affaires sont aujourd'hui fixées à 94 et dans d'autres cours d'appel, l'arriéré est parfois encore plus important.
Le temps est venu de proclamer notre inquiétude collective face au risque de dégradation du pouvoir judiciaire. Celui-ci ne peut pas assumer seul la responsabilité du mauvais fonctionnement de la justice et du manque de confiance de l'opinion publique envers elle. Le budget de la justice, le budget global de la justice, reste insuffisant. Autre sujet de préoccupation, le problème de notre statut financier. À la veille de l'Europe 1992, les magistrats belges figurent toujours parmi les plus mal payés d'Europe.
Autre préoccupation, le délabrement des palais de justice ou encore le manque de moyens informatiques. Mais si la justice est inefficace, n'est-ce pas surtout à cause de la politisation de la magistrature? Cette critique, les syndicats de magistrats n'hésitent pas à la reprendre à leur compte.
Le recours au train de nomination, permettant des dosages plus ou moins subtils entre partis politiques, au pouvoir ou non, ce système n'est plus tolérable.
Un système de nomination basé essentiellement sur les qualités professionnelles, c'est une revendication que les syndicats de magistrats rappelleront lors d'une nouvelle manifestation nationale, celle-là dans 15 jours.
Les problèmes de l'enseignement sont loin d'être tous résolus aussi, en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'organisation des cours, du mode de fonctionnement de l'école. Le parti Écolo tirait aujourd'hui une salve contre la politique de la communauté française. Écolo faisait aussi des propositions pour assurer au secteur les moyens financiers dont il a besoin. Jacques Liliès.
Alors, nous faisons maintenant le bilan, après un certain temps, nous disons, pour 91, que va-t-il se passer en matière de qualitatif? On ne voit pas grand-chose. Un petit peu plus pour les ZEP, quelques promesses pour la formation continuée, quid pour la stabilité des équipes pédagogiques, on ne sait pas, quid pour le temps de concertation au sein de l'école pour que les professeurs puissent faire de la guidance en équipe et qu'on se concerte sur les projets pédagogiques, rien. Nous faisons justement pression aujourd'hui avec d'autres pour qu'il y ait quelque chose qui change pour 91, et je crois qu'à ce moment-là, c'est un appel manifeste à la communauté, mais aussi au gouvernement national, qui doit avoir la volonté politique de se rendre compte qu'il y a un problème qui dépend largement quand même de moyens financiers, qu'en tout cas momentanément, il faut injecter en plus pour investir ou réinvestir dans l'enseignement. Nous ne croyons pas que tout le principe de la loi de financement doit être mis en cause. Nous croyons simplement que la dotation a été mal calculée dans ses mécanismes de base. Et nous disons que c'est ce mécanisme, le calcul de base de la dotation, qui n'est pas bon, et il faut le moduler, d'après nous et d'après d'autres d'ailleurs, sur l'augmentation du produit national brut.
En Wallonie, cette semaine sera celle de l'environnement. Le ministère wallon de l'environnement et son ministre Guy Lugen ont organisé une semaine verte pour sensibiliser les Wallons à l'écologie et pour les pousser à un comportement plus amical envers la nature. Un exemple, les berges des cours d'eau sont souvent de vrais dépotoirs. À Comines, Jean-Pierre Rapsat a pu assister au nettoyage du canal qui mène à Ypres.
Depuis le 12 et jusqu'au 19 mai se déroulera la Semaine Verte, une initiative du ministre Guy Lugen qui souhaite susciter auprès de la population de nouveaux comportements de consommation, de tri de déchets et provoquer la naissance d'un écocivisme wallon. De nombreuses communes et associations ont répondu favorablement à cette initiative. Un exemple parmi d'autres, celui de l'entité de Comines qui s'est fixé comme objectif de nettoyer le canal Ypres-Comines. Un canal qui possède une végétation et une faune d'une valeur écologique inestimable. Un patrimoine malheureusement dégradé par l'homme, ses immondices et des versements clandestins. Il fallait donc dans un premier temps nettoyer avant d'essayer de préserver le site et d'interpeller les pollueurs. Tâche difficile qui passera sans doute par une prise de conscience individuelle. L'opération Semaine Verte coûtera quelques 50 millions à la région Wallonne qui soutiendra 500 projets de sensibilisation. Si vous désirez participer à cette Semaine Verte, vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de votre administration communale et diffuser dès à présent le slogan de la campagne « 7 jours pour jeter vos mauvaises habitudes ».
Un petit mot de culture maintenant avec une petite fête bien sympathique cet après-midi à la RTBF, le prix annuel des réalisateurs. Chaque année, il distingue ainsi un de ses collaborateurs de la télévision que vous ne verrez jamais sur antenne et dont vous ne prenez sans doute pas la peine de lire le nom dans les génériques. Et pourtant, ils sont de ceux sans qui les émissions n'auraient pas lieu. Souvent, même discrètement, ils contribuent beaucoup à leur qualité. Cette année, c'est Lise Delay, une des chevilles ouvrières du montage magnétoscope, et aussi Franz Dirick, responsable, lui, de tout le matériel TV du centre de Charleroi, qui ont été élus. Merci et bravo à tous les deux. Merci aussi, mais adieu à une autre personnalité de l'audiovisuel qui n'aura été connue en Belgique que par les initiés. Adelin Trinon, professeur de cinéma à l'Université de Bruxelles et à l'INSAS, mais dont les amateurs pouvaient aussi suivre les commentaires au musée du cinéma, Adelin Trinon est mort accidentellement ce week-end. Un inconnu sans doute pour la plupart d'entre vous, mais tous les gens de cinéma belge, tous ceux qui ont fait le cinéma belge de ces dernières années, avaient été peu ou prou ses élèves. Il va manquer aux jeunes générations. Et nous en resterons là pour cette première édition. Il sera encore question de cinéma un peu après 23h dans JT Dernière, avec la chronique du Festival de Cannes que nous livre chaque jour Hugues Daillé. René Thierry et Bernadette Abraté reçoivent aussi ce soir un grand clown triste, Rufus. Il est en Belgique cette semaine. Excellente soirée à tous et à demain.